Merci. Alors, depuis, je vais simplement donc insister un petit peu sur certains aspects de l'intervention de Philippe. Depuis 2004, donc en fait, ces participations financières qu'on impose aux patients existent depuis longtemps en France, mais comme il vient d'être dit, ont eu un tournant tout à fait significatif à partir de 2004, où on a parlé beaucoup plus qu'avant de ce qu'on appelle les politiques de responsabilisation des patients. Avec cette idée qu'il faut rendre responsables les patients, qui sont en permanence soupçonnés de fraude. On a l'impression qu'on a cette image du patient qui est largement médiatisée et qui est assez tenace et qui tend à le montrer comme quelqu'un qui passe son temps à imaginer la façon dont il pourrait abuser l'assurance maladie en multipliant le nombre de consultations chez le médecin, ce qu'on appelle le nomadisme médical, en multipliant le nombre d'arrêts de travail ou à consommer toujours plus de médicaments. Alors, il y a une justification théorique de ces politiques de responsabilisation, encore une fois, qui visent à justifier la participation financière du patient pour le sensibiliser au prix du soin. Il y a cette idée, effectivement, dans la théorie économique, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral ou le risque moral, et qui repose sur une idée assez simple, suivant laquelle le patient qui se sait assuré va consommer d'autant plus de soins médicaux, et en d'autres termes, mieux vous êtes assuré, plus vous êtes assuré, et plus vous allez consommer de soins de façon inutile et inopportune, c'est-à-dire sans amélioration de l'état de santé. Alors, c'est considéré actuellement comme ce que les économistes appellent l'effet pervers, ou un des effets pervers majeurs de l'assurance maladie, qu'il faut évidemment arriver à neutraliser. Alors, ce qui est très important à comprendre, évidemment, c'est que c'est une hypothèse théorique, c'est évidemment pas une démonstration, et qu'à partir de cette hypothèse, la théorie va explorer tout un ensemble de mécanismes qui sont destinés à inciter les patients à consommer moins de soins médicaux et donc en particulier à les responsabiliser. Alors, il faut sensibiliser, comme je viens de le dire, il faut sensibiliser le patient au prix du soin et donc il faut l'inciter à arbitrer comme on arbitre traditionnellement en économie, c'est-à-dire à faire intervenir le prix et à jouer en jouant sur le prix, à avoir un impact sur la demande. C'est-à-dire que le prix, c'est la loi du marché. Plus le prix augmente et plus la demande baisse. Alors, ce qui veut dire que dans ce cadre théorique, une bonne assurance, c'est un arbitrage réussi, ou en tout cas, une assurance maladie performante, c'est un arbitrage réussi entre, d'une part, ce qu'on appelle la mutualisation du risque, c'est-à-dire un partage du risque qui est partagé le plus largement possible pour assurer la totalité ou la plus grande partie possible de la population, et puis, d'autre part, la mise en place de mécanismes incitatifs dont je viens de parler, de façon à dissuader le patient de consommer trop. Alors, il reste que cette théorie pose quand même un certain nombre de problèmes, qui sont à la fois des problèmes théoriques, mais aussi des problèmes empiriques. Alors, très rapidement, et sans vous ennuyer trop avec de la théorie, d'abord, c'est une théorie qui repose sur probablement une appréciation erronée de la demande de soins médicaux, c'est-à-dire qu'en santé, ce qui est tout à fait atypique pour un économiste, mais en santé, la demande de soins émane du médecin, c'est le médecin qui prescrit et c'est le patient qui consomme. Donc il y a là, dans la relation de consommation, quelque chose d'assez particulier que la théorie économique a beaucoup de mal à rendre compte, dont elle a du mal à rendre compte. Et donc, en conséquence, c'est par rapport aux questions qui nous occupent, c'est plutôt le médecin qu'il faudrait sensibiliser au prix du soin, puisque c'est lui, évidemment, qui formule la demande et non le consommateur de soins à proprement parler. Et toujours dans la même idée, rapidement dit, quand on parle de surconsommation, qui engendrerait une dépense superflue sans amélioration de l'état de santé du patient, là encore, on s'adresse probablement beaucoup plus au médecin qu'aux patients, c'est-à-dire que ça renvoie à l'évaluation de l'état de santé, d'abord à la possible évaluation et mesure de l'état de santé du patient, donc au diagnostic, et évidemment à la possibilité de distinguer ce qui est superflu et ce qui ne l'est pas. Donc pour conclure sur ce point, je ne sais pas s'il y a une responsabilisation ou une responsabilité à faire porter, mais en tout cas s'il doit y en avoir une, il semble que ce soit davantage sur le médecin que sur le patient que les choses doivent porter. Alors, outre les arguments théoriques, il y a simplement des arguments de bon sens, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est un peu un peu vraisemblable, enfin, pas très vraisemblable. Elle suppose qu'on adopte volontairement un comportement à risque au seul prétexte que l'on est assuré. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est l'idée que vous allez vous mettre à fumer parce que vous savez que votre assurance maladie va correctement rembourser votre cancer du poumon, ce qui est au moins discutable. Et puis enfin, sur le plan empirique, en tout cas à ma connaissance, aucune mesure sérieuse ne peut démontrer, si ce n'est le gaspillage, mais en tout cas l'incidence du gaspillage sur déterminante sur les dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le nomadisme médical, c'est-à-dire la multiplication des consultations. J'ai une étude de la Caisse d'assurance maladie en tête en 2004. C'était 0,04% du total des consultations, donc c'est absolument dérisoire et résiduel. Donc pour conclure un peu, ces politiques de responsabilité, de responsabilisation du patient ont des fondements théoriques qui sont tout à fait discutables et d'ailleurs tout à fait discutés et donc tout à fait problématiques sur ce point, de ce point de vue-là. Alors, il n'empêche que, évidemment, elles sont mises en œuvre de façon tout à fait importante depuis plusieurs années maintenant, et elles ont un impact réel, comme l'a expliqué Philippe, sur la couverture maladie de l'ensemble de la population française, mais, alors de façon un peu masquée, vous l'avez bien compris, mais elle frappe évidemment en premier lieu les foyers les plus modestes. Alors, je ne vais pas répéter, mais effectivement, les premières victimes de ces politiques, sont les personnes, les 8% d'assurés sociaux qui n'ont pas de complémentaire. Ce sont aussi les jeunes, ça a été évoqué tout à l'heure, les personnes âgées. Et on sait maintenant, il y a des chiffres tout à fait éloquents qui montrent que les raisons pour lesquelles on n'a pas de mutuelle sont principalement des raisons économiques, c'est-à-dire de par la vocation d'une mutuelle aujourd'hui ou d'une complémentaire aujourd'hui qui complète la sécurité sociale dans un panier de soins, dans le remboursement du panier de soins, eh bien, c'est la plupart du temps pour des raisons économiques qu'on n'a pas de complémentaire. Alors, avec ou sans complémentaire, ce qu'on peut constater depuis au moins 2007-2008, c'est que pour les foyers les plus modestes, plusieurs choses se passent et ont pu être observées. D'abord, il y a une part consacrée, une part du revenu pour les foyers les plus modestes, consacrée à la santé, qui devient beaucoup plus importante et significativement importante par rapport aux foyers les plus riches. C'est-à-dire que les foyers les plus modestes consacrent 10% de leurs revenus aux soins de santé, alors que pour les foyers les plus riches, les plus à l'aise, c'est seulement 3%. Alors, c'est évidemment tout à fait dommageable, d'abord parce qu'évidemment il y a des sacrifices et des arbitrages qui se font, et qu'on peut très bien être amené à diminuer par exemple le poste alimentation pour pouvoir se soigner, ce qui va avoir des incidences à venir évidemment sur l'état de santé. Et puis deuxièmement, on sait, c'est quelque chose que vous savez forcément très bien, on est placé devant un problème tout à fait conséquent de renoncement aux soins. Alors, on sait depuis longtemps que les politiques, ces politiques d'instauration du copaiement et de responsabilisation des patients induisent des renoncements aux soins, mais des études récentes montrent qu'elles sont tout à fait préoccupantes en France. En 2008, l'IRDES avait évalué à 14% les assurés qui renonçaient aux soins pour des raisons économiques, et parmi elles, 22% qui renonçaient de façon définitive. Et en 2010, donc de façon beaucoup plus récente, un baromètre de Cercle Santé annonçait qu'en raison de la crise économique notamment, 23% de la population française aurait déclaré avoir abandonné ou remis à plus tard la possibilité de se soigner pour des raisons économiques. Donc on est manifestement placé devant un problème de santé publique tout à fait important et majeur. Alors, comment qualifier le renoncement aux soins ? Je ne vais évidemment pas redire que ça concerne évidemment d'abord les foyers les plus modestes. Environ 24% pour les foyers dont le revenu est inférieur à 800 euros par mois renoncent aux soins. On montre assez clairement aussi que l'augmentation des honoraires de médecins augmente considérablement le renoncement aux soins. Et que ce renoncement aux soins touche ce qu'on sait aussi très bien, c'est-à-dire principalement les frais qui sont chers et mal remboursés par les complémentaires, c'est-à-dire les frais de lunetterie et les soins bucco-dentaires, mais aussi les médecins spécialistes et à hauteur évidemment du dépassement d'honoraires. Et enfin, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parmi ceux qui renoncent aux soins, près d'un tiers sont sans mutuelle. Et ce qui est plus nouveau, 13% d'entre eux donc qui renoncent aux soins ont une mutuelle, ont une complémentaire privée qui se révèle donc tout à fait insuffisante et qui montre que le transfert dont vous parlez, Philippe, c'est-à-dire depuis la sécurité sociale vers les complémentaires, les transferts de charges, est loin d'être anodin sur la couverture et sur la détérioration de la couverture maladie des plus modestes. Alors, je vais terminer rapidement. Depuis 2000, il existe un certain nombre de correctifs qui sont destinés à protéger les plus fragiles de la discrimination dans l'accès aux soins, en particulier la CMU et la CMUC, qui sont évidemment des dispositifs qu'il faut saluer et qui absolument pas une question de discuter l'opportunité de ces dispositifs, mais on observe néanmoins qu'ils échouent partiellement au moins à permettre l'accès aux soins des plus défavorisés. Pour deux raisons essentielles, là aussi que vous connaissez très bien. D'abord parce que toute la population éligible à ces dispositifs ne font pas valoir leurs droits. Et c'est une question qui est assez bien documentée maintenant. On sait que, pour des raisons, donc on a l'habitude d'en parler aux États-Unis par exemple, mais c'est aussi très vrai en France, pour des raisons d'estime de soi, pour des raisons de peur de stigmatisation, ces ayants droit ne se déclarent pas forcément auprès des institutions compétentes. Et puis la deuxième raison, qui est bien documentée aussi par les rapports annuels de Médecins du Monde, c'est le refus de soins, médecine de ville principalement, et qui montre qu'effectivement, et surtout chez les spécialistes, un nombre tout à fait significatif de médecins refusent d'accueillir les patients CMU ou AME. Donc on est dans une situation effectivement où ce qui était dit tout à l'heure, les inégalités sociales de santé viennent se cumuler, je termine rapidement, viennent se cumuler aux inégalités, pardon d'avoir été un peu longue, de couverture maladie. Alors, ce qui est évidemment très choquant sur le plan éthique et de la santé publique, mais ce qui aussi pose un problème sur le plan économique, parce qu'on est dans une situation où très probablement ces patients vont développer des pathologies lourdes, qui sont aussi les pathologies les plus coûteuses pour l'assurance maladie. Et on sait que 63% des dépenses d'assurance maladie se concentrent sur 10% des pathologies les plus lourdes. Donc, il est fort à craindre que l'avenir nous réserve une multiplication des cas graves, faute de recours à temps aux soins pour ces populations-là. Et au lieu, comme le préconise évidemment et comme l'affiche les politiques de responsabilisation des patients, au lieu d'atteindre une diminution, une amélioration des dépenses de santé, on sera confronté au contraire à une aggravation de ces dépenses. Je vais m'arrêter là parce que...
Merci. Il y a place pour deux questions. Y en a-t-il dans la salle ? Non, il n'y a pas de...
Alors, comment est-ce qu'on peut défendre les passes d'un point de vue économique, finalement ? Parce qu'il faut quand même qu'on trouve une stratégie pour essayer de peut-être de rentrer dans cette logique comptable prévalente actuellement. Comment est-ce qu'on pourrait avancer un début de piste de réflexion pour défendre cette activité spécifique dans cette idée de peut-être qu'on évite des dépenses ultérieures?
Les PAS sont plus que jamais nécessaires dans ce contexte-là. Ils sont nécessaires en tant que tels, mais dans le contexte où il y a une désocialisation qui frappe d'abord les plus précaires, tout dispositif à destination des plus précaires est absolument indispensable. En plus, comme ça a été souligné, le problème n'est pas uniquement un problème de justice ou d'injustice. C'est un problème de justesse. La politique publique, elle déploie des instruments qui vont à l'encontre des objectifs qu'elle cherche elle-même, puisqu'elle va accroître des dépenses qu'elle cherche à réduire. Elle est donc totalement paradoxale. une vision à court terme, insistant sur la responsabilité ou l'irresponsabilité supposée du patient, aboutit finalement à des transferts massifs à l'hôpital, puisqu'il y a des renoncements aux soins, qui sont beaucoup plus coûteux que s'ils avaient été pris en charge auparavant. Donc c'est pas uniquement un problème de justice ou d'injustice, c'est un problème de justesse de la politique publique.
Oui. Laure.
Oui.
Je voulais réagir à un mot que vous avez dit. La responsabilité de la dépense, c'est plutôt à imputer aux médecins que aux malades. Alors, bon, on peut pardonner cette phrase, parce que c'est un propos qui avant tout est connu. Mais en tant que médecin, on ne peut pas ne pas être choqué par une telle phrase. D'abord, certes, il y a des abus, il y en a eu, mais vous n'êtes pas sans connaître les efforts qui font en particulier beaucoup de nos confrères libéraux dans la prescription des médicaments génériques, dans les économies de soins, etc. Et dire que la responsabilité de ce surcroît de dépenses revient au médecin, à mon avis, n'est pas juste. Alors, je n'irai pas jusqu'à être d'accord avec ma consoeur qui ce matin disait que les économies, on s'en fiche et que nous, c'est notre cerveau d'hypocrate qui compte. On a fait notre malade, on se voit le coup. Non, je suis assez d'accord. Il faut faire attention au coût, mais une bonne fois pour toutes, est-ce qu'il y aurait d'autres indicateurs que des indicateurs financiers qui puissent mesurer notre efficacité médicale? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt s'intéresser à des chiffres de morbi-mortalité? Première question. Et deuxième question, qui est plutôt une remarque, je pense que la responsabilité de ces dépenses, elle est imputable ni aux malades, ni aux médecins, mais simplement à la maladie elle-même.
Oui, écoutez, c'est probablement une maladresse d'expression, évidemment pas déconsidérer le travail que vous faites. C'était dans une logique purement rhétorique, si vous voulez, d'explication de la théorie. Je ne suis pas certaine d'ailleurs que la responsabilisation soit une question opportune et intéressante, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que si on doit chercher des responsabilités ou des responsabilisations, le patient est placé dans une situation, dans le dispositif, qui, j'aurais dû le dire comme ça beaucoup plus, qui ne lui permet pas évidemment d'avoir beaucoup de possibilités pour peser effectivement sur la consommation de soins médicaux, etc. Alors, ça ne veut pas dire effectivement que le médecin abuse du système, ça veut dire probablement qu'il occupe une place tout à fait stratégique dans le dispositif, mais évidemment, je ne suis absolument pas en train de dire que vous êtes, que l'ensemble des médecins sont responsables de ce qui arrive en France et en termes de financement et en termes de qualité des soins ou d'éviction les plus modestes, pas du tout.
Je voulais rebondir sur ce que vous dites à propos de responsabilité, justesse, justice ou injustice. Parfois, les choses se font avec les scénarios se font avec un tempo en deux actes. Le premier acte, c'est de dire qu'il y a une responsabilité à faire prendre par le patient, par exemple. Ensuite, ces patients vont s'orienter vers l'hôpital, par exemple, un certain nombre de ces patients. Et ça permet ensuite de, jeter peut-être la responsabilité sur ces fameux médecins spécialistes, qui n'acceptent pas, qui ont des dépassements d'honoraires. Moi, je voudrais simplement dire que la consultation spécialisée en France, ça coûte 23 euros. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il n'y a pas simplement le problème... C'est 23 euros. Mais non, la consultation spécialiste, c'est 23 euros. Ah non, excusez-moi, en secteur 2, c'est 23 euros. Alors, 28, mais pour quelqu'un qui est installé en secteur 2 et qui prend quelqu'un... Enfin, ce que je veux dire, 23, 28, excusez-moi, mais... Voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a aussi quelque chose qui fonctionne. Le problème, c'est pas toujours le problème du dépassement d'honoraires. Enfin, voilà.
Merci. Bon, on va. Vous voulez répondre?
Alors, le problème, c'est pas le dépassement d'honoraires, mais ça y contribue quand même beaucoup. L'essentiel des problèmes, c'est qu'il y a tout un arsenal qui vise à donner des droits à tous les patients, y compris aux plus précaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces droits ne sont pas effectifs. Les droits sont théoriques, mais ne sont pas effectifs. L'exemple des dépassements d'honoraires est assez éloquent. Ça veut dire que, par exemple, pour les plus précaires, le législateur a pensé très justement que, c'est la CMUC, il y a dispense d'avance des frais, donc de fait, on ne peut pas payer les dépassements d'honoraires. Mais certains médecins, et selon la dernière enquête de l'IRDES, 25% sur Paris, échantillon représentatif, 25% des médecins refusent les bénéficiaires de la CMU qui sont obligés donc d'aller se faire soigner ailleurs. Et notamment en Seine-Saint-Denis. Et c'est exactement ce que l'on observe. Et donc le droit n'est pas effectif. Et il n'est pas effectif parce que le médecin, au nom d'une éthique qui est purement libérale, il préfère dire je donne les mêmes soins à tout le monde et je perçois les mêmes dépassements d'honoraires pour tous et donc je me mets volontairement hors la loi, puisqu'il s'agit de se mettre hors la loi, pour privilégier ma liberté. Et ce que l'on observe aujourd'hui, et qui est extrêmement important, c'est un grand bond en arrière par rapport au fondement de la Sécu de 45. Toute la Sécu de 45 a cherché à mettre à l'œuvre un tarif administré, les fameux 23 euros pour les généralistes ou 28 pour les spécialistes. Le même tarif pour tous. Et on y arrivait très péniblement parce que les médecins étaient contre. Ils étaient contre, ils ne voulaient pas être assimilés à des fonctionnaires, à des bureaucrates. Ils étaient contre. Pourtant, le législateur, petit à petit, a réussi à imposer le même tarif pour tous. Et ce qui a arrangé d'ailleurs les médecins, puisque en plus, ça solvabilisait la patientèle. Et puis en 80, on a entrebâillé la porte. On a autorisé les dépassements d'honoraires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le dépassement d'honoraires est de plus en plus fréquent. Y compris pour les médecins de secteur 1, ceux qui n'y ont pas droit. Entre 2002 et 2004, les dépassements d'honoraires en secteur 1 ont augmenté de 30%. Parce que le médecin, du fait de l'effet de levier du législateur public, considère comme légitime dorénavant de faire des actes chers. Et après, le législateur va se plaindre que le médecin refuse du soin pour le bénéficiaire de la CMU, alors qu'il a autorisé le même médecin à percevoir du dépassement d'honoraires qui empêche de recevoir le bénéficiaire de la CMU.
Merci. Merci.